petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
C'est quand même paradoxal. Pendant des siècles, nombre d'artistes, de philosophes, d'humanistes ont rêvé d'une mondialisation, c'est-à-dire d'un monde sans frontières, synonyme de paix, d'échange et de voyage. Et à la fin du XXe siècle, la mondialisation devenait une réalité, mais alors souvent une réalité décevante. En fait, il faut distinguer plusieurs sortes de mondialisation, et toutes ces mondialisations s'entrecroisent et donnent lieu à une grande complexité. La mondialisation juridique, tant espérée, serait d'abord le respect des décisions de l'ONU. On se souvient de la brillante intervention de Dominique de Villepin, alors ministre français des Affaires étrangères, l'ONU, juste avant la Deuxième Guerre du Golfe, dénonçant l'intervention militaire conduite par les États-Unis sans l'accord de l'ONU, ni même sans l'achèvement de l'enquête sur les armes de destruction massive irakiennes, en fait inexistantes. La mondialisation écologique, qui selon le pape et bien d'autres, devait passer par la création d'une organisation internationale ayant autorité en matière de lutte contre le réchauffement climatique, entre autres. Le retrait américain de l'accord de Paris, COP21, ne va pas dans ce sens. En revanche, la mondialisation financière fait rage en aggravant les spéculations et la volatilité des capitaux dont les échanges mondiaux sont, tenez-vous bien, 50 à 100 fois supérieurs aux échanges de marchandises. Le pape s'en insurge, comme il s'indigne aussi de la mondialisation économique sans régulation internationale. L'OMC, Organisation Mondiale du Commerce, est inefficace. Cependant, cette mondialisation économique a permis le développement du tiers-monde. Alors, c'est vrai, sauf dans certains pays d'Afrique. Et a permis aussi l'obligation de solidarité internationale. C'est ainsi que le FMI et la Banque mondiale volent au secours des pays en faillite, car l'économie mondiale est une chaîne menacée par la déficience d'un seul maillon. La mondialisation de la dette, c'est encore autre chose ça, hein, tient au fait que quasiment tous les pays ont accumulé d'énormes dettes, y compris et surtout les USA, pourtant première puissance économique mondiale. Mais aussi l'Allemagne, qui a une dette supérieure à 75% de son PIB, produit intérieur brut. Ou la Chine qui a une dette supérieure à 90% de son PIB, ce qui se sait moins pour l'Allemagne et la Chine, car on les croit très performants. Le Covid a aggravé les dettes de la France, qui va vers les 110% du produit intérieur brut. Le fait pour un pays d'être peu endetté n'est pas du tout signe de prospérité. Exemple de pays non endettés, ou très peu, l'Afghanistan, la Russie, l'Estonie. Chaque État paie de lourds intérêts, surtout les pays pauvres, tandis que pour les pays tels que l'Allemagne ou la France, les taux d'intérêt sont très bas. Par ailleurs, qui peut croire que ces dettes seront un jour remboursées? Peu d'experts, mais chut, chut. Il ne faut pas le dire, sinon les banques seraient en faillite, faute de pouvoir inscrire leurs crédits ou obligations envers les États dans leur comptabilité. Quant à la mondialisation culturelle, elle s'impose par la généralisation de la culture occidentale et surtout américaine, tant dans la musique ou la chanson que dans le cinéma, la télévision ou même toutes les disciplines. Il n'est qu'à voir les records américains en termes de prix Nobel. Mais depuis le début du XXIe siècle, la mondialisation, les mondialisations, sont plutôt en recul. D'abord, les délocalisations des industries n'ont plus le vent en poupe. En effet, il y a là des difficultés logistiques pour les entreprises délocalisées et des difficultés politiques avec les pays d'accueil des usines. L'informatique et la robotique rendent peu avantageuses les délocalisations vers les main-d'œuvre peu chères, parce que le numérique peut être encore moins cher. Enfin, le Covid-19 a montré l'insupportable dépendance des pays occidentaux à l'égard de la Chine dans presque tous les domaines de production, y compris sanitaire et pharmaceutique. La mondialisation, l'ouverture des frontières, c'est aussi l'accélération des migrations vers les pays plus riches que d'autres, et l'immigration amène des réactions politiques, nationalistes et populistes, de refermement des frontières. De plus, les écologistes réclament des circuits courts entre lieux de production et lieux de consommation. Le confinement récent, et qui dure encore, a accéléré la mise en place de circuits courts en France et ailleurs. Enfin, la guerre économique entre les USA et la Chine et la réaction américaine à la destruction d'emplois aux États-Unis et au déficit du commerce américain, surtout vis-à-vis de la Chine. Quand les USA, pays leader du libéralisme, devient protectionniste, c'est-à-dire anti-libéral, eh bien, c'est la fin de la mondialisation. Nous risquons pourtant de regretter rapidement ce phénomène de démondialisation. En effet, la mondialisation pouvait laisser espérer un monde plus multilatéral. Tous les regards se tournaient vers la croissance chinoise, deuxième puissance économique mondiale, qui d'ailleurs achète nos ports et nos aéroports, y compris à Toulouse, pour remettre à l'ordre du jour les vieilles routes de la soie. Autre pôle potentiel est celui de la Russie de Poutine, et qui n'est plus communiste, mais qui veut retrouver son empire d'hier et qui fait peur par sa supposée puissance militaire. Et bien sûr, il y a l'Europe, qui est bien la deuxième puissance économique mondiale, donc avant la Chine, dont j'ai parlé à l'instant, sauf que, malgré de récents progrès très sensibles dus à la crise issue du Covid-19, l'Europe politique n'assume pas la capacité de l'Europe économique. Pourtant, avec ses performances sociales et son programme écologique, l'Union européenne offre au monde le modèle le plus attractif. Alors pourquoi croire en ce multilatéralisme qui ferait contrepoids au monopole mondial des États-Unis, souvent fantasque? Certes, le multilatéralisme dont la France se fait aujourd'hui le champion serait, ou sera, le meilleur paradigme d'une nouvelle mondialisation. Mais soyons lucides, si l'on veut être efficace. Tout est lié, comme le dit aussi le pape François. Et les USA sont premiers dans presque tous les domaines qui comptent. La Chine talonnerait les USA, d'après certains médias. Erreur totale. Les USA, en 2018, ont un produit intérieur brut de 20 500 milliards de dollars et la Chine un produit intérieur brut de 13 500 milliards de dollars selon le FMI. La France, pour mémoire, 2 800 milliards de dollars. Pire, si l'on compte de façon plus vraie le PIB par habitant, même corrigé par la parité de pouvoir d'achat, selon que les produits et services locaux sont chers ou non. Bref, la richesse créée par habitant fait encore des USA le numéro un des grands pays, avec en 2017, toujours selon le FMI, 59 500 dollars par habitant, alors que la Chine arrive en 82e position avec 16 700 dollars par habitant. Les USA ont tous les GAFA et se trouvent de beaucoup première puissance militaire du monde, avec un budget annuel en 2014 de, écoutez bien, 610 milliards de dollars, 10 fois plus que la France. Et la Chine, chaque année, dépense 216 milliards de dollars, presque 3 fois moins. C'est-à-dire que chaque année, la Chine, en fait, perd du terrain. Et 85 milliards à peine pour la Russie. 85 milliards pour la Russie, 610 milliards pour les États-Unis. Le seul espoir du bilatéralisme, c'est l'Europe. Sinon, nous allons devenir tous les colonies économiques et culturelles des États-Unis.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.